Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre. C'est en effet votre émission littéraire et nous vous accompagnons jusqu'à midi sur votre radio locale. Trois temps forts aujourd'hui. D'abord, un hommage à Marcel Proust, dont on fêtera le 10 juillet prochain le 150e anniversaire de la naissance. Et en 2022, on commémorera le 100e anniversaire de la mort. À cette occasion, nous serons en ligne avec Dominique Drouin, écrivain, amoureux et fin connaisseur de la vie et de l'œuvre de l'auteur de la recherche, pour en savoir un peu plus. Nous évoquerons ensuite la liberté de la presse satirique trop souvent menacée avec Fabienne Desseux, journaliste et auteur aux éditions Iconovox d'un ouvrage intitulé Très engagé, les dessinateurs de presse parlent de leur métier. Très engagé, T-R-A-I-T-S, un recueil d'interviews de 14 dessinateurs de la presse française qui parlent de leur métier, de leurs difficultés et de leurs espérances. Dessiner encore et toujours pour rire, s'amuser et désamorcer la violence du monde 6 ans après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris. Et nous nous arrêterons sur le dernier roman de Liliane Mosca qui sera également en ligne avec nous pour nous faire découvrir le parcours de l'héroïne du Jardin secret de Violette paru le 25 mars dernier aux presses de la Cité dans la collection Terre de France. L'action débute en 1885 dans le Morvan, à l'Orme, commune de la Nièvre, où, acculée à une situation financière devenue difficile, Violette, jeune maman, abandonne son mari et son bébé pour devenir nourrice à Paris dans une famille bourgeoise. Mais à Paris, Violette va faire une rencontre qui va la bouleverser à jamais. C'est à découvrir et à suivre dans ce numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous marquons une première étape en musique et nous nous retrouvons juste après.
Je suis partie pour te laisser revenir, pour couper les ponts. Je suis partie rompre avec nos souvenirs, couper l'alimentation. J'ai craqué mille et une fois en regardant des photos de toi. J'ai beau traverser l'Atlantique pour m'éloigner de toi, même à des milliers de miles, t'es toujours là. Je t'ai fui en pensant être prisonnière, tu m'as jamais retenue. Je pensais qu'aimer, c'était tout le contraire. Des menottes, j'en ai jamais eu. J'ai craqué mais une fois en regardant des photos de toi. J'ai beau traverser l'Atlantique pour m'éloigner de toi, même à des milliers de miles, toujours là. J'ai craqué mais une fois en regardant des photos de toi. J'ai beau traverser l'Atlantique pour m'éloigner de toi, même à des milliers de miles, toujours là.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Je vous l'ai dit au début de notre émission, le 10 juillet prochain, nous commémorerons le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust. Marcel Proust qui appartient d'ailleurs au signe du cancer, le signe le plus féminin du zodiaque, et son ascendant est bélier. Bon, sur ces considérations astrologiques, en attendant l'exposition Proust, un roman parisien au musée Carnavalet à Paris à compter du 15 décembre prochain, il n'est absolument pas superflu de revenir sur la vie et l'œuvre de l'auteur de La Recherche, prix Goncourt en 1919 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et pour en parler avec nous, en ligne, Dominique Drouin. Bonjour Dominique Drouin.
Bonjour Yannick.
Alors Dominique Drouin, romancier, amoureux depuis fort longtemps de l'œuvre monumentale de Proust et fin connaisseur de son univers et de ses personnages. Alors je suis très heureux de vous avoir devant notre micro, justement parce que l'œuvre de Proust, on sait qu'en 1912, André Gide a refusé pour Gallimard le premier volume de Du côté de chez Swann et que Proust le publie alors chez Grasset à compte d'auteur. Mais finalement, Dominique Drouin, ce qui est important de souligner, c'est la combativité de Proust pour écrire cette somme romanesque et aussi pour se faire connaître et publier.
Oui, alors en effet, rappelons d'abord en effet que nous devons de connaître l'œuvre cathédrale de Proust à la seule pugnacité de l'écrivain lui-même dans sa recherche d'un éditeur, parce que c'est un véritable chemin de croix qu'il entame à compter de d'août 1909 et qui va jusqu'à mars 1913, date à laquelle se conclut un contrat enfin avec Bernard Grasset. Mais entre ces deux dates-là, août 1909 et mars 1913, il va de refus en refus, y compris en proposant le compte d'auteur, ce qu'il fait d'ailleurs régulièrement avec... il y met même un point d'honneur, parce que pour lui, le compte d'auteur, c'est l'assurance qu'aucun éditeur ne viendra ergoter sur un terme, sur une structure, etc. Alors, citons parmi les grands éditeurs qui ont refusé les uns après les autres l'œuvre de Proust. Alors, citons Calman Levy, Mercure de France, Fasquelle, la toute jeune NRF à l'époque, hein, elle n'a que deux ans, Ohlendorf, le journal Le Figaro, où il était question d'une publication en feuilleton. Et on connaît la suite, en effet, comme vous l'avez rappelé, Yannick, Du côté de chez Swann finit par paraître le 14 novembre 1913 chez Grasset, à compte d'auteur.
Alors, beaucoup de déboires, en tout cas, éditoriaux pour Proust. Et justement, cette œuvre, elle était initialement envisagée, en fait, comme un essai. Initialement, en fait, Proust n'avait pas pensé à un roman. C'est par la suite que l'œuvre prend une forme romanesque.
Oui, d'emblée, il y a une forme hybride sur laquelle Proust réfléchit longtemps. Il n'a cessé de produire, hein, Proust. Il faut pas voir du tout le snob qui passait son temps dans les salons à observer. Ceux qui l'observaient, il l'engrangeait, il le mémorisait, et de toute façon, ça finissait en écriture. C'est un forçat de l'écriture, au même titre que Flaubert, que Proust admirait d'ailleurs. Alors, à travers Les plaisirs et les jours, qui paraît en 1896, puis une tentative romanesque qu'il abandonne en 1900 et que les éditeurs ont publié depuis sous le titre de Jean Santeuil, mais en fait qui n'a pas un continuum romanesque comme a pu l'avoir l'œuvre maîtresse qui aboutira ensuite. Donc à travers ces éléments-là, il amasse un matériau qui prépare en effet la grande œuvre, donc La Recherche du temps perdu, qui est, comme vous le savez, composée de 7 volumes, donc rappelons-les quand même, Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui en effet, comme vous l'avez rappelé, obtiendra le prix Goncourt en décembre 1919, le 10 décembre 1919, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorre, grande saga sur l'homosexualité telle qu'elle était perçue à l'époque, en tout cas par Proust, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Alors, ça fait à peu près une somme de 3000 pages qui correspond à une œuvre dont Roland Barthes disait que, qu'il dit, Roland Barthes, dans Le plaisir du texte, que c'est l'œuvre de référence, la mathésis générale, le mandala de toute la cosmogonie littéraire. C'est, excusez du peu. Oui. Donc, longtemps, Proust a tâtonné sur la forme, en effet, que devait prendre cette œuvre. Alors, en 1919, il songe, en effet, à un essai visant à démonter les thèses de Charles-Augustin Sainte-Beuve, le fameux Sainte-Beuve, selon qui l'œuvre de l'écrivain s'expliquerait par sa vie. Alors Proust s'inscrit en faux contre cette vision, en désolidarisant le moi social du moi artiste, de moi profond. Et donc pour lui, c'était une véritable hérésie d'essayer d'expliquer une œuvre par la vie de l'auteur. Alors l'essai au début devait être construit ainsi, alors le réveil, puis le récit d'une matinée, l'attente de la parution d'un article dans le Figaro, sa lecture, et qui ouvrait une discussion avec sa mère, permettant d'illustrer et d'étayer les thèses proustiennes, donc en porte-à-faux avec celle de Sainte-Beuve.
Alors,
donc dans... Pardon.
Oui, Dominique, continuez, pardon.
D'emblée, on voit que la forme est hybride, parce qu'on peut à peine parler d'essai. Il y a en effet un mélange d'essai et de forme romanesque, mais d'emblée, la forme est hybride. Et c'est dans la bascule confirmée vers le roman qu'adviendra la recherche telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, l'étape préparatoire et transitoire vers la recherche sera publiée par des éditeurs, dont Bernard de Fallois, qui était un fin proustien, sous le titre du Contre Sainte-Beuve en 1954, c'est-à-dire la même année d'ailleurs que la première édition de la Pléiade de la recherche, qu'on appelle l'édition Pierre Clarac. Alors, on peut noter que Proust anticipe beaucoup. Parce qu'en août 1909, quand il fait les premières approches auprès des éditeurs, dont j'ai parlé succinctement tout à l'heure, en vue de son projet, il n'a encore presque rien de fini à proposer. Il faut bien voir qu'il est plus dans une démarche, voilà, j'ai un projet, je vous propose ça, est-ce que vous seriez prêt à le publier ? Et ce n'est vraiment qu'en novembre 1909 que seront prêtes les 200 premières pages qui sont, à peu près du côté de chez Swann. Alors cette hésitation entre la forme essai ou roman perdure d'ailleurs jusqu'à la mi-1911, puisque dans une lettre à Madame Geneviève Strauss, la veuve de Georges Bizet, en juin 1911, on trouve cette citation, « Je termine un roman ou livre d'essai ».
Et cet aspect, alors justement, Dominique Drouin, on aime ou on n'aime pas Proust, c'est vrai. Il y a cette phrase, par exemple, d'Anatole France, je le cite, « La vie est trop courte et Proust est trop long hein. ». Et puis, il y a cette phrase, alors qui semble être... il y a cette phrase qui est la plus longue de toute la littérature française, qui se trouverait dans Sodome et Gomorre, c'est un passage sur la place des Pères.
Oui, enfin, c'est les 856 mots, sur la place des pères. Enfin, oui, c'est plutôt la vision de l'homosexualité que Proust a à l'époque.
Oui. L'aspect.
Je ne vais pas la citer là, ça serait trop long. Mais...
oui, effectivement. L'aspect novateur du projet littéraire conduit par Proust, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en 2021?
Proust, en effet, est révolutionnaire dans la forme narrative qu'il va mettre au point. C'est notamment l'introduction du fameux « je proustien ». Alors, il est introduit dès l'incipit, on entend « longtemps, je me suis couché de bonheur ». Il faut savoir que cette phrase a été longue à élaborer dans sa forme finale. Il a longtemps hésité, il y a 17 versions de cette première phrase. « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Alors, ce « je » n'est pas celui de l'autofiction actuelle. Quoique nommé, ce « je », il est absent à lui-même. C'est un « je » qui n'est là que pour poser son regard sur, en quelque sorte, la nouvelle comédie humaine qui se jouera sous ses yeux et qui sera transcrite dans La recherche du temps perdu. Il faut savoir que, faut rappeler au passage, en effet, que Proust admirait aussi beaucoup Balzac. Donc, c'est un « je » à la fois un et multiple. C'est un regard, on va dire, à facettes, qui saisit tout. Citons d'ailleurs l'ouvrage de Louis Boll, qui s'appelle justement Marcel Proust ou Le complexe d'Argus, paru chez Grasset en 1967. Donc Argus, ou Argos en grec, c'est ce géant de la mythologie, un géant qui a 100 yeux. Et donc c'est à tort que les mauvais lecteurs de Proust disent « Proust ne parle que de lui ». Proust, en réalité, ne parle que des autres. Mais avec cette originalité de la forme, où il a introduit un témoin nommé « je », et parfois même Marcel, sans qu'on puisse l'assimiler à l'auteur lui-même.
Oui.
D'ailleurs, Duras dit qu'elle ne connaissait personne qui ait moins d'existence personnelle qu'un écrivain. Alors Proust illustre parfaitement cette remarque. Il y a énormément de passages dans La Recherche où le jeune est là que pour mettre en relief ce dont il va parler, mais jamais lui-même. Et citons Proust lui-même, cette fameuse phrase programme qu'on trouve dans Le Temps retrouvé, « En réalité, chaque lecteur est, quand il lit le propre lecteur de soi-même, l'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. » Et c'est ce qui fait dire à Nathalie Mauriac, qui est la fille de Colonne Mauriac et arrière-petite-nièce de Marcel Proust, il y a du proustien en chacun de nous. Ce qui fait qu'en effet, les meilleurs lecteurs de Proust ont souvent cette impression de se lire eux-mêmes, de découvrir des choses qui concernent leur propre vie, en fait. Même si dans le détail, c'est pas tout à fait ça, l'essence même de ce qu'ils racontent, c'est des choses qui résonnent dans la mémoire et dans la vie de chacun.
Alors, tout résonne dans nos vies, notamment le temps, qui est un élément essentiel de l'œuvre proustienne.
Oui, en effet. Ce ne sont pas les souvenirs qui ont de la valeur en tant que tels dans La Recherche du temps perdu. Ils sont là seulement comme indice et comme jalon de la permanence du temps, en effet. C'est la fameuse expérience de la Madeleine, dès le début du Collège chez Swann, cette première réminiscence issue de la mémoire involontaire qui permet de se confronter à ce que Proust appelle le temps pur et de s'émerveiller que, retrouvés intacts, ces souvenirs attestent un temps non érosif. Effectivement, c'est un élément central de La Recherche du temps perdu. Alors, on peut faire une exégèse du titre lui-même. Ce temps perdu, ce n'est pas aller chercher des vieux souvenirs pour les. C'est vraiment le temps lui-même qu'il s'agit d'aller chercher.
Oui. En tout cas, pas de temps perdu avec vous, en ligne avec nous, Dominique Drouin. Merci pour ces éclairages sans doute succincts. Hein. On pourra peut-être envisager une grande émission sur Marcel Proust au cours de cette année 2021.
Tout à fait. Hein. Parce que parler de Proust en 10 minutes, c'est une gageure.
Ah oui, j'en suis bien d'accord. Alors, on rappelle qu'il meurt le 18 novembre 1922, à l'âge de 51 ans. Un âge d'ailleurs qui a vu mourir d'autres grands écrivains français.
Oui, Molière, Balzac. Oui. Shakespeare a tenu une année de plus, 52 ans.
Et puis il y a, alors c'est vrai, il y a cette photo du grand écrivain sur son lit de mort réalisée par Man Ray, où on voit un Proust avec sa barbe et ses yeux cernés, une photo qui se trouve d'ailleurs au musée d'Orsay à Paris. Et puis il y a un autre portrait que vous connaissez bien, Dominique Drouin, c'est la peinture de Proust par Jacques-Émile Blanche. Et d'ailleurs, Jean Cocteau, ce filou qui a côtoyé et connu Proust, disait que justement, la manière dont Proust était habillé et peint lui faisait ressembler à un œuf de Pâques. C'est très, très Cocteau, ça. Dominique Drouin, avant de nous séparer, est-ce que vous êtes membre de la Société des Amis de Marcel Proust ?
Non, je ne suis pas, pour des raisons personnelles.
Non, mais la question n'était pas pour vous embarrasser, Dominique. Hein. C'était simplement pour rappeler qu'il y avait une Société des Amis de Marcel Proust très influente, 650 membres, et qui d'ailleurs a été créée en 1947.
Voilà, le président actuel, c'est Jérôme Bastianelli. Ils sont basés donc à Ailly-Combray, hein, dans la fameuse maison de Tante Léonie.
Dans le département de l'Eure-et-Loire.
Voilà.
Dominique Drouin, merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage, votre passion et votre amour de cette somme romanesque monumentale. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on aura, j'espère, l'occasion de réévoquer Marcel Proust au cours de cette année à bord de Wagon Livre. On marque un nouvel intermède musical et on se retrouve juste après avec Fabienne Desseux, que nous aurons également en ligne, pour évoquer un ouvrage, c'est un recueil d'entretiens qu'elle a fait avec 14 dessinateurs de la presse française. Et on en parle juste après avec Fabienne Desseux.
jusqu'à mon dernier souffle. Je voudrais faire le bien et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les retient là sur le sol, là me poser sur le mémoire de forme. Jusqu'à mon dernier souffle, j'imaginerai le pire. Je suis pas mauvais pour ça, j'ai dû prendre de mon père. Je vis doucement, je vais vers le bonheur, toujours le chercher. Quelle erreur, je suis toujours à Clichy. Ça fait plus de 7 ans, je ne compte même plus le nombre de filles, le nombre de nuits passées sous ses toits, à rouler des étoiles entre mes bras. Je suis pas un gars d'ici, je suis loin de chez moi. Les enfants de terre noire ont très bonne mémoire. Je me souviens la métard et les collines dorées par le soleil du soir. C'est l'heure de rentrer, papa nous sifflait, le jour s'embrumait. Manger en silence devant la télé. Gamotière, Perrotière, Saint-Jean, Saint-Cham, la Métard, le château, la maison, le cimetière, Saint-Jean, la Métard, terre noire, terre noire, Paradiso, Paradiso. Jusqu'à mon dernier souffle, j'irai vers ton corps souple et je m'inventerai une vie heureuse, une vie où on serait deux, une maison merveilleuse au bord d'une rivière qu'on aurait inventée.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Eh bien, comme je l'avais annoncé au début de notre émission, nous sommes en ligne avec Fabienne Desseux, que je salue. Bonjour Fabienne Desseux. Alors Fabienne Desseux, en juin de l'année dernière, nous avions parlé de vos chroniques autour du monde de Pôle emploi. C'était un livre qui est toujours disponible aux éditions de Boré et qui s'intitule « Viré » avec un point d'exclamation. Mais entre-temps, il y a eu d'autres ouvrages parus et je mentionne notamment « Très engagé », alors « Très », T-R-A-I-T-S, sous-titré « Les dessinateurs de presse parlent de leur métier ». Fabienne Desseux, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu et ensuite de nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez souhaité rendre hommage et donner la parole à 14 dessinateurs de presse dans ce livre ?
Alors bon, moi je suis, j'étais petite journaliste de province dans une radio étudiante et je suis devenu auteur un peu par hasard justement avec ces chroniques sur le chômage puisque j'ai été licencié économique à l'époque. Et le dessin de presse, bon, c'est une passion, une vieille passion. Et en réalité, j'utilisais pour ces chroniques de virée qui étaient d'abord diffusées sur Internet, j'utilisais systématiquement du dessin de presse. Et puis un jour, fin 2018, une de ces chroniques a été partagée sur une page un peu bizarre, c'est-à-dire pas la chronique qui était visée, mais le dessin. Et en regardant un petit peu cette page, je me suis aperçu qu'elle était relativement toxique envers le dessinateur. Donc bon, je lui envoie un petit message sur Facebook pour lui signaler en disant « bon, je sais pas si vous savez, mais a priori la personne derrière cette page ne vous veut pas du bien ». Et il m'a dit « appelez-moi ». Et en réalité, effectivement, cette personne ne le voulait pas du bien, parce qu'il y avait déjà eu des menaces de mort, il y avait une plainte de déposée, et je me suis dit, c'est quand même bizarre, on est fin 2018, je suis Charlie, tout ça, et d'autant que ces menaces de mort n'avaient rien à voir avec la religion. Donc j'ai eu envie de m'intéresser au dessin de presse à ce moment-là, dans quel contexte ces gens travaillaient. J'ai commencé à les contacter petit à petit, et ça s'est fait comme ça.
Donc 14 dessinateurs qui ont répondu à vos questions, un ouvrage qui est illustré par 150 dessins, des dessins qui ont d'ailleurs été généreusement offerts à Fabienne Desseux pour l'illustration de ce livre.
Ouais, ils ont été plutôt sympas. C'est vrai que c'était bien d'avoir du texte, puisqu'on les entend jamais, des dessinateurs de presse, on ne voit que leurs dessins. C'était bien de leur donner la parole, mais c'était bien aussi de renvoyer à ce qu'ils faisaient pour qu'on se rende compte aussi de ce dont on parlait.
Alors parmi ces 14 dessinateurs, ça va de Pancho, qui est le plus âgé, hein, à l'heure actuelle, il a 77 ans, à peut-être Aurel, le plus jeune, 41 ans. Et il n'y a, Fabienne Desseux, qu'une seule femme.
Eh oui, c'est pas simple. Alors après, moi je sors de nulle part, je les contacte beaucoup sur le réseau. Après, mon éditeur m'aide à avoir d'autres contacts. Après, certains n'ont pas répondu, n'ont pas eu envie. J'avais essayé de solliciter Coco à l'époque. Voilà, elle n'a pas répondu, elle a peut-être autre chose à faire, elle a bien raison. Voilà, donc c'est pas, ça s'est fait aussi un peu par hasard, si vous voulez, ce panel de 14, même si moi je voulais effectivement de manière exhaustive un certain nombre de personnes de générations différentes qui publiaient dans des journaux différents, de gauche, de droite, pour avoir quelque chose d'assez large. Et effectivement, il n'y a que Camille Besse qui représente la gente féminine dans ce livre.
Alors je corrige, Camille Besse, c'est la plus jeune, elle a 38 ans à l'heure actuelle. Ouais. Alors il faut dire, bien sûr, Fabienne Desseux, qu'au moment où vous communiquez avec ces dessinateurs de presse sur la liberté de la presse, sur leur métier, qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, cela intervient bien après les attentats de Charlie Hebdo. Hein. Rappelons Charlie Hebdo, 7 janvier 2015, et justement, je suis Charlie, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'impliquait à l'époque cette identification à Charlie, Fabienne Desseux?
J'en sais fichtre rien, et je crois que les gens ne le savaient pas non plus. Il y a eu une telle émotion collective. Effectivement, dessiner une rédaction en France, ça n'était jamais arrivé. Dessiner des dessinateurs de petits Mickey, non plus. Il y avait chez les gens une émotion, il y avait sans doute « je suis Charlie, je veux que Charlie ait nos pupilles et fasse ce qu'il veut », mais il y avait aussi « je suis Charlie parce que je défends la liberté d'expression, je suis Charlie parce qu'on ne tue pas des journalistes, je suis Charlie pour plein de raisons ». Différentes, et c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est un peu dédité par là-dessus, même très rapidement, hein, parce que c'est devenu « Je suis Charlie May », parce qu'en fait on a réagi sous le coup d'une émotion, c'est bien tout le problème du dessin de presse, et c'est son problème aussi actuellement, c'est qu'on réagit sur une émotion sans connaître ce que ça implique, et donc ce « Je suis Charlie », même pour les dessinateurs, c'était très compliqué à cerner.
Alors il faut tout de même avoir le courage de dire que tout le monde n'a pas été Charlie, et encore aujourd'hui, on entend des personnes qui considèrent que finalement les dessinateurs de Charlie Hebdo ont bien cherché leur mort.
Oui, tuer des gens pour des dessins, moi je veux bien, hein, c'est une façon de voir les choses. Le problème de Charlie Hebdo est très spécifique, le problème des caricatures de Mahomet est très spécifique, c'est quelque chose qui les a aussi dépassés, parce que c'est pas, voilà, eux ont toujours parlé d'actu, on leur reproche effectivement de beaucoup stigmatiser. Alors, par un drôle de retournement de situation, Charlie Hebdo est devenu un journal qui fait le jeu de l'extrême droite alors qu'il n'y avait pas plus antiraciste qu'eux. Il y a eu un retournement de situation parce que on considère que quand ils vont dessiner sur le prophète ou sur des islamistes, c'est s'en prendre aux musulmans, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, moi je l'analyse pas comme ça. Et j'ai bien cherché. Le problème, c'est que maintenant, quoi qu'on dise, on va avoir cherché. Enfin, c'est le syndrome de la mini-jupe hein, sur le viol. C'est OK. Enfin, si on se fait violer parce qu'on porte une mini-jupe, j'aurais quand même savoir qui est coupable de quoi.
Alors, être dessinateur de presse en 2021, ça reste encore difficile. On a vu, par exemple, très récemment, des journalistes de Charlie Hebdo, une fois de plus, être inculpés par la Turquie pour une caricature de Erdogan qui était parue en octobre 2020 dans les colonnes de Charlie Hebdo. Et puis, il y a eu, Fabienne Desseux, au début de cette année, en janvier, l'affaire Xavier Gors. Parce que sa caricature dans le quotidien Le Monde était un dessin sur un sujet délicat, mais finalement les dessinateurs de presse se risquent parfois à des sujets épineux. Là, c'était un dessin sur l'inceste. Et Xavier Gors a été plus ou moins chassé des colonnes du Monde, et il a été victime de la pression des militants des réseaux sociaux.
Alors, il n'a pas été chassé. Il a claqué la porte. Xavier Gors a son caractère.
Oui, il a dit la liberté ne se négocie pas, effectivement.
Alors, le souci d'un dessin de presse, c'est qu'en théorie, c'est dans la presse. Donc, les gens se font du mal à vouloir lire des dessins qui ne sont pas pour eux. Si on ne veut pas lire Charlie Hebdo, on ne lit pas Charlie Hebdo. Si on n'a pas envie de lire Valeurs Actuelles, on ne lit pas Valeurs Actuelles. Je ne lis pas, j'ai pas envie de me faire du mal pour rien. Mais bon, c'est le principe des réseaux sociaux. Les dessins se retrouvent sur les réseaux et sont jugés. Alors le dessin de Xavier Gors, oui, c'est donc sur l'inceste au moment du livre de Duhamel qui, sort sur du Hamel, voilà, ça sort. Lui, en fait, rebondit sur un propos de Finkielkraut qui avait un peu louvoyé sur ce qu'était une famille. Est-ce que c'était une famille élargie? Est-ce qu'on va considérer que c'était de l'inceste, si c'était un tel ou un tel? Bon, il rebondit là-dessus et il fait une espèce de famille à rallonge. Et donc, les gens réagissent mal parce qu'aujourd'hui, on ne réagit d'ailleurs, et c'est un peu, tout le monde fonctionne comme ça, en fonction de son ressenti. Le ressenti devient un fait. On ne comprend pas ou on comprend mal le dessin, ou alors le dessin est peut-être mal enquillé aussi, hein, c'est possible. Le souci de Xavier Gore, c'est que souvent ces dessins ne sont pas surtitrés. Donc on ne sait pas forcément si on n'est pas au fait de l'actualité. Il faut être au fait de l'actualité quand on veut lire un dessin de presse, donc on le comprend mal. Et en plus, voilà, donc il y a eu le problème de l'inceste, et aussi on l'a accusé d'être transphobe, parce que dans sa famille à rallonge, il citait le mot trans. Mais alors, le souci, c'est qu'à la fois on a des gens qui veulent être reconnus sur leurs identités, l'homosexualité a été un thème aussi à un moment donné, etc. Mais quand on devient intégré à une société, et c'est ce qui se passe au niveau des trans, ben on va se retrouver aussi dans du dessin de presse, on risque de se faire brocarder, on risque effectivement de se faire gratouiller là où on n'aime pas, mais c'est aussi une façon de dire, ben oui, vous faites partie intégrante de la société et on parle de vous. Donc bon, vous allez voir, son dessin, on l'aime ou on l'aime pas. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, il va y avoir 5 000, 10 000 personnes qui vont faire pression comme ça. Les journaux vont reculer, c'est pas le premier cas. Il y a eu un problème avec un dessin d'ESP dans l'UMA. Pareil, voilà, il y avait eu une réaction sur les réseaux sociaux. Le souci, c'est que la presse est très fragile et recule de plus en plus devant ces coups de pression donnés par les réseaux sociaux qui deviennent à la fois jugés partis et qui deviennent donneurs d'ordre. Et ça, c'est assez effectivement inquiétant.
Alors, il y a eu, là aussi, c'est en juin 2019, le dessin jugé antisémite de Antonio Antunes, qui a été repris par l'édition du New York Times. Alors, lui a carrément décidé de liquider le dessin de presse de ses colonnes.
Ah ben, comme ça, au moins, on vire l'ouvrier et l'usine. Comme ça, au moins, ça va plus vite, hein, on prend plus de risques. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'un journal publie un dessin de presse. Il ne s'est pas fait à l'insu de son plein gré. Hein. Il y a un dessin qui a été choisi, peut-être mal choisi, j'en sais rien. Enfin, il y a une rédaction, il y a des gens qui choisissent. Pour publier un dessin, on l'assume. Le fameux dessin du New York Times, effectivement, n'était pas bon. Si on en parle avec les dessinateurs de presse, globalement, on vous dit qu'il n'était pas réussi. C'est un dessin à symbole. Le symbole, c'est toujours extrêmement casse-gueule. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut reculer? Est-ce que c'est pour ça qu'on peut... voilà, est-ce qu'on effectivement, on retire complètement le dessin de presse de ses colonnes par peur? C'est effectivement ce qui est en train d'arriver, parce que la presse aujourd'hui, pour beaucoup, à part pour quelques indépendants, dont Charlie Hebdo, dont Canard Enchaîné, dont Ciné, les autres sont tributaires d'annonceurs, de publicitaires, sont des propriétaires qui sont pas toujours... pour ce genre de saillie. Et donc, on obtient ces résultats effectivement assez navrants de retirer un dessin de presse et par peur, effectivement, des réactions qu'il y a derrière.
Et en fin de compte, Fabienne Desseux, finalement, on peut dire qu'un dessin consensuel n'est pas vraiment intéressant.
Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Le dessin de presse, tout le monde, voilà, on préfère... à Thierry ou Charlie première période, mais que les gens ouvrent ce qu'étaient ces journaux. C'était un pire. Le dessin de presse a évolué. Le dessin de presse, globalement, s'adapte aussi à une époque. Si on parle de l'homosexualité, à une époque dans le dessin de presse, il y a 25 ou 30 ans, on pouvait avoir cette caricature grossière d'un homme maquillé avec un bras, etc. Ça n'est plus le cas. Le dessin de presse évolue, mais ça reste une outrance. C'est une outrance, c'est une caricature. Ça n'est pas fait pour se brosser dans le sens du poil, c'est aussi fait pour réfléchir, pour bousculer. Donc voilà, soit on veut encore du dessin de presse qui évolue. Moi, je considère qu'il continue d'évoluer, mais il faut accepter qu'effectivement, ça va quand même bousculer. Sinon, on est dans le dessin d'humour ou dans le dessin d'illustration, et puis on n'aura plus ce type de dessin, effectivement.
Question peut-être délicate. Est-ce qu'il y a une école Charlie Hebdo, d'une certaine manière, en France?
Rien, je ne sais pas. Mais le problème du dessin de presse, c'est que ce sont des gens qui s'intéressent à plusieurs choses, donc effectivement au dessin, mais ce sont des éditorialistes politiques, ce sont des gens qui s'intéressent à l'actu, ce sont des gens qui portent aussi des opinions. Il y a des gens qui considèrent qu'effectivement dans les dessinateurs que ce que fait Charlie n'est pas une bonne idée. D'autres aussi. Ça peut être aussi des différences de génération. Il n'y a pas forcément d'école Charlie Hebdo. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être pas comme ça que ça se pose. Je veux dire, on a ça dans le sang, sans doute. Mais est-ce qu'il y a une école Charlie? Ça, je ne sais pas.
Certains artistes et dessinateurs se battent actuellement pour que le dessin de presse soit reconnu comme un droit fondamental auprès de l'UNESCO.
Mmh, ouais, c'est une démarche de Gorce, ça, d'ailleurs, au départ. Ouais. Oui, pourquoi pas. Enfin, ça ne mange sans doute pas de pain, mais c'est pas ça le problème du droit fondamental. À une époque, la censure était d'État. Donc voilà, aujourd'hui la censure, elle vient de monsieur et madame tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc une reconnaissance de l'UNESCO, c'est bien, mais ça... Puis bon, on est en France, il y a des pays, effectivement, où on meurt pour des dessins, où on est emprisonné, etc. Le problème aujourd'hui, je ne sais pas si ça changerait grand-chose, c'est pas... Voilà, la démarche, pourquoi pas. Après, moi, je ne sais pas si ça changera radicalement les choses si on vous dit demain, attention, l'UNESCO a dit que c'était un droit fondamental, je ne suis pas sûr.
En tout cas, je rappelle le titre de votre ouvrage, Fabienne Desseux, très engagé. Les dessinateurs de presse parlent de leur métier. Donc, ils sont 14, hein, Aurel, Babouze, Berthe, Camille Bess, l'unique femme, Faujour, Gorce, Goubel, Grosse, J.O., Cac, Nawak, Pancho, Soulcier et Urps. Alors, Fabienne Desseux, je ne vais pas vous libérer ainsi. Je sais que c'est bientôt l'heure de l'apéritif et de votre péché mignon, le Mont Basillac. Ça, c'est une indiscrétion que vous avez eu la faiblesse de livrer dans Virée. Fabienne Desseux, un dernier livre paru fin mars dernier en auto-édition et dont le titre est succulent, La drôle de guerre d'Eugène Daguerre. Alors, on est à Nevers, autour d'une Eugène Daguerre qui tient un bar depuis un demi-siècle au cœur de Nevers et qui, là encore, va bouleverser le pays en secouant, en agitant l'Élysée et le Vatican. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce dernier texte ?
Eugénie, c'est une farce. C'est un petit roman que j'ai écrit. Je ne sais pas plus écrire un roman qu'autre chose, mais j'ai eu cette idée-là, effectivement, d'Eugénie. Et oui, c'est une farce. C'est aussi sur ce qu'on vient de parler, sur les réseaux sociaux, comment on peut s'enflammer sur une information, comment les gens peuvent s'arc-bouter sur leurs opinions, comment en peu de temps on peut. Quelque chose peut dégénérer. Je l'ai tourné à l'absurde, je l'ai tourné à l'humour si possible, puisque l'humour n'est pas universel, on en parle depuis tout à l'heure, mais voilà, c'était une petite soupape pour sourire, pour montrer un petit peu nos défauts à tous. Et puis voilà, c'est parti de Nevers parce que je suis de Nevers et que je connais un peu la ville et que du coup voilà, c'est parti justement de cette vieille provinciale qui tient ce bar et qui va secouer le monde puisqu'elle va essayer de prouver que Dieu n'existe pas.
Voilà. En tout cas une Fabienne Desseux qui renoue avec une plume trempée dans l'acide et les audaces, un peu comme les dessinateurs de presse.
Ben, bizarrement, c'est ce qu'on me raconte dans les retours de ce roman, c'est qu'effectivement, j'écris comme les dessinateurs de presse dessinent. Ben, moi, ça me va. Ça me va même très bien.
Donc, La drôle de guerre d'Eugénie Daguerre, c'est un livre donc, en auto-édition. Alors, certaines librairies de Nevers ont des exemplaires, mais si on est en Bourgogne-Franche-Comté, comment fait-on pour se le procurer ?
Alors, c'est une auto-édition un petit peu particulière. C'était parti d'une auto-édition. Donc, effectivement, moi, on peut me contacter sur les réseaux. J'en ai quelques-uns. Mais au final, les éditions Iconovox ayant trouvé l'idée plutôt rigolote, a aussi décidé de le publier. Donc, on pourra le trouver aussi sur le site des éditions Iconovox. Et sinon, actuellement, il y a uniquement à la librairie le Cyprès à Nevers où on peut le trouver. Ou sinon, auprès de moi, en direct.
Donc, aux éditions Iconovox, très engagé, et le dernier roman de Fabienne Desseux, La drôle de guerre d'Eugénie Daguerre. Merci Fabienne Desseux d'avoir été en cette fin de matinée en ligne dans Wagon Livre pour finalement remettre un petit coup d'éclairage sur la liberté de la presse qui en a besoin.
Je crois aussi. Merci à vous en tout cas.
Bon congé de fin de semaine, bonne fin de matinée. Merci Fabienne Desseux.
Au revoir.
Au revoir Fabienne.
Il reste quoi deux ou trois choses pour que tu rêves, pour que tu rêves.
Il reste moi, c'est pas grand chose pour que t'espères, pour que t'espères.
Tout ça ne sert à rien. On a coulé l'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. On a coulé l'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien. Deux ou trois fois, j'ai pris la pause
pour me déplaire
dans les miroirs de ceux qui causent.
Au lieu de faire,
tout ça ne sert à rien. On a coulé l'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien.
Tout ça ne sert à rien.
On a coulé l'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien.
Tout ça ne sert à rien.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Elle est en ligne avec nous depuis l'Aube où elle réside, non loin de Troyes. Bonjour Liliane Mosca.
Bonjour.
Alors Liliane Mosca, comme je l'avais annoncé au début de notre émission, vous avez fait paraître un nouveau roman aux presses de la Cité le 25 mars dernier. Vous êtes journaliste culturel, plus de 10 romans parus à ce jour. Un début de carrière littéraire aux éditions de Boré, et puis maintenant on vous trouve régulièrement aux presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Alors, Liliane Mosca, je me permets quelques petites informations biographiques vous concernant. Vous êtes née en Côte d'Or, vous avez grandi dans l'Yonne, notamment à Ancy-le-Franc, et également en Puisaye, non loin de Toucy.
Oui, à Leuny, exactement.
Alors, lorsque vous étiez à Ancy-le-Franc, vous avez très souvent visité le château, vous êtes aussi très souvent baigné dans le canal, dans l'Armançon.
Oui, ça fait partie de mes beaux souvenirs d'enfance, tout ça. D'ailleurs, je raconte un peu ça dans Les Amants de Maulde.
Alors, le nouveau roman, on va en parler, donc il a pour titre « Le jardin secret de Violette ». Finalement, nous sommes à la fin du 19e siècle, le roman débute précisément en 1885, dans le Morvan, département de la Nièvre, et nous sommes dans la petite ville de Lorme, où habite votre héroïne, Violette, qui est très très jeune, hein. elle a 18 ans.
C'est ça, elle a 18 ans, c'est une toute jeune femme.
Alors elle est mariée avec celui qui est galvaché au début, qui se prénomme Bertin. C'est un couple qui vit de manière extrêmement modeste, hein, qui tire le diable par la queue, et justement, puisque la situation financière est extrêmement délicate, eh bien, c'est Violette qui va, d'une certaine manière, sauver la situation.
Oui, en fait, elle se sent un peu obligée. Ça se faisait beaucoup, hein, de partir en nourriture, comme on disait à l'époque. Mais elle est réticente, mais le manque d'argent, puis son mari la pousse aussi à partir, à laisser son bébé et à partir à Paris pour nourrir l'enfant d'une autre.
Alors elle va devenir nourrice, elle va y rester plus d'un an en fait, parce que les projets, ce qu'on appelait une nourriture, hein, ça pouvait durer de 12 à 18 mois.
Oui, tout à fait, oui.
Alors vous racontez, parce que c'est terrible, la vie de ces nourrices morvandelles à la fin du 19e siècle, qui sont contraintes, pour gagner de l'argent, d'abandonner leur bébé.
Oui, et comme on sait qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile à l'époque, c'était quand même délicat d'abandonner le bébé, quoi, d'abandonner le lait. Et ben, Violette en est bien consciente, mais elle le fait parce qu'elle est obligée, en fait.
Alors, elle se retrouve donc à Paris. Il faut imaginer ce que pouvait représenter ce voyage du Morvan, hein, de la Nièvre, de l'Orme jusqu'à Paris, où elle est accueillie chez les de Brissac, alors une riche famille bourgeoise de la rue Saint-Guillaume. Et là, en fait, Liliane Mosca, ce que vous montrez bien, c'est le destin d'une fille modeste, pas si naïve que ça, parce qu'au début du roman, vous montrez qu'elle a une culture, dans la mesure où elle aime un peu lire, les quelques livres
oui.
qu'elle peut avoir.
Elle est intelligente, elle est allée à l'école, elle le lit bien, oui, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Et elle est un petit peu cultivée parce qu'elle aime lire, oui.
Et elle sait donc lire et écrire, et en plus, elle ne parle pas patois, elle parle un bon français.
Elle parle patois chez elle, mais elle sait parler français, oui.
Alors elle est habillée, nourrie chez cette famille, hein, donc elle va donner son lait au petit Pierre. Hein, et alors en fait, Liliane Mosca, c'est tout de même, à un moment j'ai relevé cela dans votre roman, c'est 8 tétés par jour. Ce lait, c'est un or blanc d'une certaine manière.
Ah, tout à fait. Et le lait des nourrissements Vendelles est réputé parce qu'il était très bon, très pur et très bon. Donc elle se fait, en fait elle s'habitue un petit peu, mais sa petite fille manque évidemment.
Alors d'ailleurs c'est très très beau parce que Violette est venue à Paris et elle a pris avec elle le bavoir de sa petite fille qu'elle cache sous son oreiller parce
oui.
qu'on ben comprend
oui,
bien.
Oui, pour garder son odeur. Oui.
oui. C'est douloureux cet arrachement, ce déchirement pour gagner sa vie.
Ben, je pense que tout le monde ne le vit pas pareil. Je crois qu'il y a certaines filles pour qui l'attrait d'une vie douillette primait sur le reste. Ça se passait bien, mais pour Violette, c'est difficile. Parce qu'elle était très maternelle, donc c'est difficile de laisser son bébé pour en nourrir un autre, en fait.
Alors, le lait, je l'ai dit, est une sorte d'or blanc. Hein. Il est vital,
oui,
il est précieux. C'est la raison d'être de la nourrice dans une grande famille de la bourgeoisie parisienne. Alors, bien sûr, elle est choyée.
Elle est choyée, elle a une vie agréable.
On la nourrit bien. Il s'agit bien sûr que le lait reste à la fois généreux et de bonne qualité.
Oui.
Il y a un épisode qui, aujourd'hui, nous paraît totalement original. C'est l'épisode où le docteur vient inspecter ses seins et goûte le lait.
Oui, j'ai lu ça dans des documents, je me suis documentée pas mal. Et oui, il fallait qu'elle soit. Il fallait que les mamans du bébé et qu'elle nourrissait, qu'elles fassent confiance. Et donc, elles étaient très surveillées.
Et d'ailleurs, à un moment, on lui dit est-ce que vous. C'est Madame de Brissac, me semble-t-il, qui pose la question à Violette, la nourrice, et qui lui dit Violette, est-ce que vous vous massez les seins?
Oui. Et oui.
Alors, il y a un aspect.
C'était particulier, c'est nourrice. Le destin de ses nourrices,
oui.
La vie de ses nourrices.
Ce qui est très original dans votre roman, Liliane Mosca, c'est la confrontation entre ce Morvan pauvre, précaire, ce Paris aussi que vous nous faites découvrir à travers notamment ces figures littéraires et artistiques.
Oui, de l'époque, oui. Ben oui, je les ai mis en scène pour montrer un petit peu que tout ce qu'elle découvrait, tout ce qui lui était inconnu et qu'elle découvrait et qui va la faire grandir.
Et puis il y a, alors ça c'est très amusant, les deux Brissac sont amis avec un écrivain très connu à cette époque en France, et il l'est encore plus aujourd'hui, c'est Alphonse Daudet.
Ouais, disons que c'est partie de leur connaissance. Oui.
Alors il avait écrit des choses pas très sympathique sur les nourrices.
Oui, ça c'est pareil, je l'ai relevé ça dans des documents. Oui, il pensait qu'elle faisait ça en fait que pour l'argent. Et ce qui est un peu vrai, mais il y avait bien d'autres choses. Et en fait, elle était obligée, elle n'avait pas le choix, elle n'a pas eu le choix, Violette.
J'ai noté cette phrase dans votre roman, d'ailleurs je la partage avec nos auditrices et auditeurs, je vous cite, hein, Liliane Mosca, « La jouissance de l'allaitement, ce moment précieux, où la mère et l'enfant ne font qu'un, relié par un fil d'amour. »
Oui, parce qu'en fait, après Violette, Ben, au début, ce bébé, ça l'agaçait un peu parce que c'était pas le sien et elle le nourrissait aux dépens du sien, de sa petite fille, qui, elle, manquait de lait. Donc, elle avait quand même une petite réticence au début. Et ensuite, c'est le miracle de la nourriture. En fait, elle s'attachait au bébé qui n'y était pour rien et qui se nourrissait de son lait et qui profitait.
Il y a une autre nourrice, alors venue d'Autun, c'est Clémence, qui travaille, elle, dans une autre maison. Alors elle vit un drame terrible parce qu'elle a laissé son petit garçon, un tout petit bébé, dans sa famille, dans le Morvan. Et finalement, le petit bébé est mort parce que bien souvent, c'est ce qui arrivait. Les nourrices...
C'était une nourrice qui avait été trouvée par le bureau de recrutement. Parce que Violette, elle connaissait déjà... C'était par connaissance qu'elle était venue dans cette famille. Et donc, c'est sa sœur qui lui gardait son bébé. Alors que Clémence, elle connaissait personne. Donc, il y avait un bureau de recrutement qui lui avait trouvé une nourrice. Et elle ne le voyait pas.
Oui. Et d'ailleurs, Clémence dit à Violette, votre héroïne, « On nourrit les mioches des riches et pendant ce temps, les nôtres meurent. »
Ben oui, ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent, malheureusement.
Alors, on va bien sûr pas tout dérouler, les aventures du roman, parce que Violette va découvrir quelques moments extrêmement agréables à Paris, une rencontre qui va bouleverser sa vie, mais je n'en dis pas plus.
Tout à fait.
Alors,
tout à fait, mais elle reviendra quand même au Morvan.
Alors, il y aura le retour au Morvan. Alors là, ce sont les désillusions, les trahisons. C'est à découvrir dans votre livre. Et puis... Alors ça, c'est un thème récurrent dans vos romans, Liliane Mosca, c'est que vous vous intéressez tout de même beaucoup à la condition féminine. Il y a une forme de, j'allais dire, de féminisme gentiment revendiqué, d'une certaine manière. Non, vous ne partagez pas mon point de vue.
Ou alors, ça doit être inconscient. Ça doit être inconscient. Mais oui, c'est vrai que j'ai des héroïnes qui sont assez battantes, en fait, et qui sortent un peu de l'ordinaire, qui veulent sortir de leurs conditions.
Je disais cela parce que, au début du roman, dans son village de l'Orme, Violette n'a pas spécialement le droit de laisser ses cheveux détachés. D'ailleurs, elle dit on a le droit à sortir en cheveux. C'est amusant, cette expression, sortir en cheveux.
À l'époque, oui, elles cachaient encore leurs cheveux sous leur bonnet.
Alors, il y a un petit peu de patois aussi dans le roman. Alors, j'ai noté une expression, alors je la trouve délicieuse. Je décabane. Alors, décabaner, ça veut dire perdre la tête.
C'est perdre la tête, oui, oui.
Et puis, alors,
quand
une femme est mal habillée, on dit qu'elle est mal gonnée.
Ah oui, 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 mais ça, moi, quand j'étais petite, j'ai entendu ça.
Alors, vous l'avez dit...
C'est pas si ancien que ça.
D'accord. Vous l'avez dit au cours de notre échange, vous vous êtes documenté. Il y a peu de romans sur les nourrices. Il y a des livres, des essais, des réflexions, des livres historiques
oui,
sur
a,
les nourrices.
Il y a beaucoup de documents, mais je ne connaissais pas vraiment de romans, à part celui de Michel Jury, mais il y a 25 ans en fait.
Oui.
Il n'y a pas vraiment de romans. Puis c'est écrit par un homme, c'est pareil.
Oui, alors, effectivement, comme vous le dites, le regard d'une femme début du XXIe siècle sur le destin d'une nourrice morvandelle fin XIXe est intéressant, et bien rendu d'ailleurs.
Ben, merci, je me suis efforcée, oui, de me mettre dans la peau de Violette.
Alors, est-ce que le prochain roman, j'imagine en 2022, est en cours d'écriture ?
Ah, il est déjà presque corrigé, il est chez l'éditeur déjà, j'ai déjà signé.
Alors, peut-on en savoir un peu plus ou non ?
Écoutez, il se passe dans Lyon, près de Tonnerre, à Lézine exactement, au bord du canal, près
d'accord.
d'une écluse.
D'accord, donc là vous revenez un petit peu aux sources de l'enfance. Il y a une certaine nostalgie chez Liliane Mosca.
Oui, tout à fait, je suis une nostalgique.
Vous aimez le monde rural, vous êtes peinée de le voir décliner d'une certaine manière ?
Oui, c'est ce que je raconte un peu dans Mademoiselle à l'éventail, le précédent.
Oui. Alors dans Mademoiselle à l'éventail, on est tantôt... au début, ça commence à Menton, hein, c'est la Côte d'Azur, les parfums des fleurs, le soleil, une charmante jeune fille. Et puis ensuite, on remonte un peu vers le nord pour aller en Haute-Marne.
En Haute-Marne, oui.
Donc c'est alors La Demoiselle à l'éventail qui est sortie l'année dernière, en juin 2020. Et puis je rappelle donc le dernier roman, paru lui le 25 mars dernier aux presses de la Cité dans la collection Terre de France, Le Jardin secret de Violette, hein, un roman donc sur la condition d'une très jeune nourrice du Morvan qui découvre à Paris la ville, la modernité, les jalousies et les haines, les mœurs de la grande bourgeoisie, des secrets également, parce qu'il y a une chambre, il y a une chambre secrète.
Ah oui, il y a un secret.
Il y a un secret dans cette famille.
Dans tous les romans, il y a des secrets, oui, oui, il y a un secret.
Et que Violette va percer.
Oui.
En tout cas, c'est une vie.
Il y a un secret, il y a, bon, on peut le dire quand même, il y a un amour impossible.
Oui, un amour courtois, au sens médiéval du terme, hein. Avec beaucoup de raffinement, d'élégance.
J'aime beaucoup mon personnage masculin. Ouais.
Et alors, ce qui est aussi extrêmement délicat de votre part, Liliane Mosca, c'est qu'il y a une librairie à Paris qui cache justement une relation clandestine.
Oui, voilà. Clandestine et pure en même temps.
Et qui, tout de même, va bouleverser la vie de Violette, mais il faut lire le roman pour tout bien comprendre.
Ah oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements.
C'est un peu une forme de clin d'œil au roman Une vie de Maupassant, différemment.
J'y ai pas pensé, mais je ne sais pas.
En tout cas, c'est une vie et le parcours de votre héroïne Violette qui lui réserve...
Vous citez Maupassant que j'adore. Hein.
Oui, mais j'ai cru comprendre que finalement, en peinture, Renoir vous obsède et qu'en littérature, Liliane Mosca, Maupassant, peut-être aussi quand même... oui, essentiellement les auteurs du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle.
C'est vrai.
Alors
oui, j'en parle souvent dans mes romans, oui, c'est vrai.
Georges Sand.
Inconscient, quand on me le fait remarquer, je me dis, ben oui, c'est vrai, j'en ai parlé, je ne me rends même pas compte sur le coup.
Indirectement, Georges Sand est présente aussi dans ce roman.
Georges Sand est présente, ouais.
Oui. Je rappelle, Liliane Mosca, donc, le titre de votre dernier roman, Le Jardin secret de Violette, c'est aux éditions des Presses de la Cité. Et puis, bien sûr, on peut l'acheter dans toutes les librairies. On attendra encore quelques semaines, Liliane, pour aller à la rencontre des lectrices et lecteurs.
Ah oui, je vais alors, dès que je pourrai, bien sûr, comme l'histoire se commence là. Et je vais à Saulieu aussi après, puis je vais avoir certainement d'autres rendez-vous.
Bon, on espère aussi que vous viendrez dans Lyon.
Oui, je viens dans Lyon, bien sûr, je vais à Auxerre, ça c'est sûr.
Un très grand merci, Liliane Mosca, d'avoir été en cette fin de matinée dans Wagon Livre en ligne avec nous. Je vous souhaite un bon congé de fin de semaine, Liliane. Et puis, bien évidemment, vous le savez, j'espère vous recevoir, alors dès que nous pourrons nous rencontrer, enregistrer une émission d'une heure sur vos deux derniers romans et sur le dernier, Le Jardin secret de Violette.
Merci beaucoup à vous. Ben oui, je compte bien venir bientôt.
Alors à très bientôt, Liliane.
À bientôt.
On se quitte avec une pause musicale. Je rappelle que vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien, je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi, je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois, je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon. Je t'aimerai.
quelques plaies, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'avoir été des nôtres en cette fin de matinée sur Radion. Merci de rester fidèle à votre émission littéraire Wagon Livre chaque samedi à 11h sur votre radio locale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi 17 avril, toujours à 11h sur Radion. Et si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la retrouver dès à présent sur le site d'archives de l'émission via internet sur le www.yannickpetit.fr. Encore merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.